règne vienne, le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a été prêché par Jésus à de nombreuses occasions, a été enseigné. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est formidable, c'est un mystère. Le royaume de Dieu, c'est fabuleux. C'est quelque chose de grandiose. Hein? Et c'est un mystère parce que, premièrement, c'est un mystère dans l'Ancien Testament, ça c'est clair. Dieu a révélé progressivement ce qu'était le royaume de Dieu. Bon, la finalité, c'est quand nous serons avec Dieu, que nous verrons toutes les dimensions du royaume de Dieu. Je pense que on peut pas connaître toutes les dimensions du royaume de Dieu ici sur Terre. Et en tout cas, il y a une recherche de ce royaume, et ça, ce sera intéressant de le découvrir dans la parole de Dieu. On va pas tout exploiter sur le règne de Dieu. Il y en a qui ont fait plusieurs volumes, rien consacré au royaume de Dieu. C'est très, très intéressant d'ailleurs. Alors, le royaume, d'une manière assez simple, un royaume, quand on pense au mot royaume, on pense à souveraineté. La souveraineté, qu'est-ce que c'est en quelques mots? La souveraineté, c'est un règne qui, en tout cas, en ce qui concerne Dieu, hein, les hommes, c'est peut-être plus restreint dans la configuration de leurs frontières, hein, un royaume d'une certaine ampleur, mais le règne de Dieu, le royaume de Dieu, la souveraineté de Dieu, si on parle de souveraineté de Dieu, mais régit tout ce qui se passe sur la terre, ce qui se passe dans les cieux, ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe dans le présent et ce qui se passera dans l'avenir. Je veux dire, le plan de Dieu dans sa globalité est sous le règne de Dieu. Hein. Dieu dirige toutes choses, Dieu contrôle, Dieu est au contrôle de toutes choses. Je veux dire que nous sommes dans la main de Dieu. On pourrait mettre la terre et la main de Dieu qui soutient la terre, qui soutient l'univers, qui soutient votre vie du début à la fin, jusque dans l'éternité. Hein. La souveraineté de Dieu, c'est que finalement, le plan de Dieu s'accomplira de toute manière. Bon, c'est vrai qu'il y a un diable, hein, qui s'est mis dans l'histoire. Dans la création de Dieu, il y a eu des anges que Dieu a créés, et le diable peut nous faire croire qu'il a une certaine efficacité et qu'il règne quelque part. Même à Jésus lui disait, si tu te prosternes, moi je te donnerai ces royaumes, je te donnerai toutes ces villes, je te donnerai la gloire de ce monde. Et donc, il a usurpé Dieu, en fait, hein, parce que l'homme, par le péché, lui a remis les clés. Dieu lui avait donné les clés pour dominer, pour être au-dessus, pour ne pas être assujetti au péché, pour ne pas être esclave du monde, esclave des mentalités réprouvées, mais d'être libre en étant au-dessus de la mêlée, je vais dire, et en étant soumis à Dieu. Parce que Dieu, il est le maître, il contrôle toute chose. Et le péché a fait tomber l'homme dans l'esclavage. Et donc, il est sous, quelque part, le règne de la malédiction, il est sous le règne de Satan qui égare les hommes, qui les conduit dans des mensonges, dans des travers au niveau de leur pensée. Et tout l'impact du royaume, en fait, nous sommes par la foi entrés dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils bien-aimé, par la foi, nous sommes sortis du royaume des ténèbres, mais tout n'est pas fait. C'est-à-dire que par la foi, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu, mais il y a une progression, il y a des choses à connaître. Et dans une vie comme la nôtre, quelle qu'elle soit d'ailleurs, il y a des épreuves qui sont différentes pour les uns et pour les autres. Et ces épreuves-là nous façonnent. Ces épreuves-là nous changent. Ces épreuves-là peuvent culbuter notre foi si elle est légaliste. Et nous devons nous approprier les promesses de Dieu et les laisser vivre en nous. Dieu est plus grand que nos épreuves. Dieu est plus grand que nous. Dieu est plus grand que notre conception des choses. Et Dieu a en réserve des plus grandes choses. Et bien souvent, il nous fait passer par des situations difficiles. Et on pourrait se dire à ce moment-là, là je ne reconnais plus Dieu. Un peu comme le psalmiste qui disait à un moment donné, la main de Dieu, c'est étonnant, mais la main de Dieu n'est plus la même qu'elle ne l'a été. Le psalmiste a dit cela. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves qui vont user éventuellement votre foi si vous ne laissez pas votre foi rafraîchir, être rafraîchie par Dieu. Et quelquefois, on est vraiment démoli quelque part. On est cassé, on est culbuté, bouleversé, mis par terre, mis à genoux, par l'adversaire ou l'adversité, appelez ça comme vous voulez. Et Dieu règne, mais il semblerait que dans l'épreuve, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et on se dirait bien, mais où est Dieu dans l'aventure? Est-ce que je fais confiance à celui qui est le maître de l'histoire, le maître de ma vie, le maître de mon histoire personnelle? Est-ce que je lui fais confiance quand les problèmes surviennent? Quand je suis dans le tunnel de mes problèmes, est-ce que je continue à faire confiance à Dieu? Que ton règne vienne. Est-ce que je cherche le règne de Dieu dans les moments difficiles? Le règne de Dieu, ça veut dire gouverne ma vie. Prends les rênes. Moi qui aime bien contrôler ma vie, parce que tous les êtres humains aiment bien se contrôler, aiment bien contrôler toutes choses dans leur vie. C'est l'être humain, c'est l'être charnel. Et Dieu veut que nous conduire au fait de se débarrasser de ce self, enfin il y a du self-control hein, dans nos émotions. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir du contrôle de soi. C'est pas ça. D'ailleurs, un fruit de l'esprit, c'est le contrôle de soi. Mais ce que je veux dire, c'est que quelquefois nous voulons maîtriser les choses. Nous voulons maîtriser notre vie. Nous savons comment les choses doivent se produire. Et des fois, ça ne va pas du tout comme nous pensons. Pas du tout. Et Dieu veut nous amener à reconnaître sa majesté, à reconnaître son autorité, à reconnaître sa souveraineté au point où nous nous abandonnons à lui et nous commençons vraiment à lui faire confiance. Non pas parce que tout va bien dans ma vie, j'ai accepté le Seigneur, et c'est chouette quoi. Hein, là, les gens dans le monde, ils sont dans les ténèbres, et moi je suis bien. Oui, mais on peut aussi se retrouver dans des chemins sombre. Et vous allez dire, non, ça ne vient pas de Dieu, ça, c'est pas vrai. Ben, si, il y a des chemins sombres. À Gethsémani, Jésus, il sait ce que ça veut dire, être dans la sombre vallée. Et il savait que Dieu le tenait, mais à un moment donné, éloigne cette coupe de moi, je veux pas la boire. Il réalisait ce qu'il allait souffrir. Et non, Seigneur, éloigne ça de moi, j'ai pas fort envie. Vraiment, j'ai pas envie. Et pour finir, dans cette nuit-là, et des fois il nous faut des années d'acceptation, des décennies pour accepter ce que Jésus a accepté en une nuit. Jésus, il est finalement dit au Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, que ton règne vienne dans ma vie. Viens régner, sois souverain de mes pensées. Toi, t'es le plus grand, tu sais pourquoi. S'il m'arrive telle ou telle chose, tu sais pourquoi. Toi, tu le sais, moi, je ne le sais pas. Mais toi, tu le sais, et je veux apprendre à faire confiance s'il m'arrive des choses qui dépassent mon mental, qui dépassent ma conception, qui dépassent la révélation que je peux avoir. Parce que j'ai un certain degré de révélation, mais des fois, ce qui m'arrive dépasse le degré de révélation que j'ai eu. Alors, nous allons voir la première vidéo et je vous propose de voir le témoignage de Nick Vujicic. Qui connaît Nick Vujicic? C'est déconcertant. C'est déconcertant et vous allez voir.
Une personne extraordinaire. Leur capacité, leur talent, ou simplement leur sourire. Quand j'ai rencontré Nick Wojcik pour la première fois, j'ai su que je venais de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Dès l'instant où il a commencé à partager avec moi sa merveilleuse histoire, j'ai pu voir comment Dieu utilisait un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds.
Mon père disait qu'il était à côté de ma mère lorsque j'étais en train de naître, et il a vu mon épaule sortir. Il a pâli. Il espérait que ma mère n'avait pas vu parce qu'il a remarqué que je n'avais pas de bras droit. Il a dû quitter la pièce. Il ne pouvait croire ce qu'il avait vu. Le docteur est arrivé et mon père lui a dit « Mon fils, il n'a pas de bras droit. » Et le docteur a répondu « Non, il n'a pas de bras du tout, ni de jambes. » Mon père n'en croyait pas ses oreilles. À l'église, tous étaient dans le deuil disant « Pourquoi Dieu a permis que quelqu'un naisse ainsi ?» Au début, ma mère ne voulait même pas me porter, ni m'allaiter. Elle s'est sentie très mal à l'aise les premiers mois. Il a fallu à mes parents beaucoup de temps pour faire de nouveau confiance à Dieu, pour savoir qu'ils n'avaient pas commis une erreur, qu'ils ne nous avaient pas oubliés.
Les parents de Nick ont remis leur peur et leur déception face aux incapacités de leur fils entre les mains du Seigneur. Ils ont décidé de faire confiance à Dieu et de croire qu'il avait un avenir et une espérance, que Dieu avait un plan pour lui. Mais alors que les années ont passé, Nick a fait face à de nombreux défis. Il avait du mal à faire confiance à un Dieu qui, selon lui, lui avait donné moins qu'aux autres.
J'ai défié Dieu en disant « Dieu, je sais que je suis pécheur et que je n'aurai probablement jamais la paix si je ne t'invite pas dans mon cœur. Mais je ne t'y inviterai pas tant que tu n'auras pas répondu à ma question. Pourquoi as-tu pris mes bras et mes jambes? Pourquoi ne m'as-tu pas donné tout ce que les autres ont ?» Et j'ai dit « Dieu, tant que tu ne m'auras pas répondu, je ne te servirai pas. » Alors j'ai voulu tout arrêter. Si Dieu n'abrégeait pas mes souffrances, alors j'allais le faire moi-même. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, j'ai tenté de me noyer dans mon bain. J'ai dit à mes parents, « Je veux juste me relaxer un peu, pouvez-vous me mettre dans le bain ?» Je me suis retourné à deux reprises pour voir si j'allais aller jusqu'au bout. N'y suis pas arrivé. La pensée qui m'a empêché de le faire, c'était l'amour que j'avais pour mes parents. Je les aime tellement. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de m'aimer. Et j'ai pensé aux conséquences qu'aurait eu ma mort. J'ai imaginé mes funérailles, je voyais que tout ce que ça apporterait serait un sentiment de culpabilité sur mes parents, qui n'auraient rien pu faire de plus.
Ce serait la dernière fois que Nick penserait au suicide, mais ce ne serait pas la dernière fois qu'il devrait faire face aux difficultés qui l'ont poussé à avoir l'envie d'en finir avec ses souffrances. Un jour, la mère de Nick lui a fait lire un article sur un homme très sévèrement handicapé, et l'histoire de cet homme a eu un très grand impact sur la vie de Nick.
J'avais le choix, être en colère contre Dieu pour toutes les choses que je n'avais pas, ou bien être reconnaissant pour celles que j'avais. Ma mère m'a dit, « Nick, Dieu va t'utiliser, je ne sais pas où ni comment, mais il va le faire. » Et ces graines ont commencé à germer dans mon cœur. C'est là que j'ai compris que ça ne servait à rien d'être complet de l'extérieur, quand on a été brisé de l'intérieur. Et j'ai découvert que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances. J'ai donné ma vie à Jésus en lisant Jean 9 quand j'avais 15 ans. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village, qui était aveugle de naissance. Jésus l'a vu et les gens disaient, « Pourquoi cet homme est-il né ainsi ?» Jésus a répondu, « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et dans 2 Timothée 3,16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui m'a insufflé la vie et la foi. Cette foi est venue sur moi, cette paix est venue sur moi, et j'ai senti que Dieu avait répondu à ma question.
Quelle était la question et quelle était la réponse?
La question était pourquoi? Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Et la réponse a été, me fais-tu confiance? Voilà la question. Et quand on répond oui à cette question, rien d'autre n'est important.
Mais pour vous en particulier, qu'est-ce qui vous a fait dire, Seigneur, je vais faire confiance à ta parole car elle a la vérité. Je vais te faire confiance même si je ne sais pas ce que tu me réserves pour demain.
Parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Rien d'autre ne pouvait me donner la paix. Je savais que des jambes et des bras seuls ne pouvaient me donner la paix. Je savais que je connaissais la vérité. Qui j'étais, pourquoi j'étais là, où je vais, où je ne vais pas. Et je n'ai pas trouvé cette vérité ailleurs qu'en Jésus-Christ.
Et c'est en Jésus-Christ que Nick a puisé la force pour faire ce que beaucoup pensaient impossible.
C'est dur d'être fort quand des gens vous disent constamment « Tu n'es pas assez bien, va-t'en, on ne veut rien avoir à faire avec toi. » Ni que tu n'es personne, ni que tu ne peux pas faire ceci ou cela, nick. Dans la vie, si tu ne sais pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Parce que tu crois que les mensonges sont la vérité. Mais on réalise qui nous sommes en vérité en lisant la parole de Dieu. Je ne suis pas un homme sans bras ni jambes. Je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné mes péchés, je suis ambassadeur du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur du Dieu très haut. Ça n'a rien à voir avec Nick, ni les capacités de Nick à devenir un conquérant. Je ne suis rien. Mais Dieu, en revanche, vit en moi, et maintenant je vis dans sa force. Tout ce que Jésus conquit, je le conquis aussi. Je crois que si Dieu ne vous donne pas un miracle, vous êtes le miracle pour le salut d'autres personnes. Et je remercie Dieu de ne pas avoir répondu à ma prière, quand je le suppliais à l'âge de 8 ans de me donner des bras et des jambes. Parce que, devinez quoi? Du fait que je n'ai ni bras ni jambes, Dieu m'utilise partout dans le monde. Et ces 6 ou 7 dernières années, nous avons vu approximativement 200 000 âmes se tourner vers Jésus-Christ pour la première fois. Nick, préférerais-tu avoir des bras et des jambes ici sur Terre? Non, c'est selon la volonté de Dieu. Parce que je préfère ne pas avoir temporairement de bras et de jambes ici sur terre et pouvoir gagner quelqu'un pour Jésus-Christ et passer l'éternité avec eux.
Ces 10 dernières années, Nick a partagé son histoire dans 24 pays et a atteint plus de 3 millions de personnes. Qu'il parle dans un stade bondé de monde ou à une personne en particulier, son cœur derrière le message est le même.
Dieu vous aime. Il n'a pas oublié votre souffrance. Il n'a pas oublié votre famille. Et peut-être qu'en regardant cette interview, vous avez comparé votre souffrance à la mienne. Mais l'espoir n'est pas dans le fait de savoir que, selon votre opinion, quelqu'un est plus malheureux que vous. L'espoir n'est pas là, mais l'espoir est dans le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'espoir est de comparer votre souffrance à l'amour incommensurable et la grâce infinie de Dieu. Ésaïe 40:31 dit « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Je n'avais pas besoin que mes circonstances changent. Je n'avais pas besoin de bras et de jambes. J'ai besoin des ailes du Saint-Esprit et je vole, parce que je sais que Jésus me tient debout. N'abandonnez pas Dieu, car lui ne vous abandonnera jamais. »
Nick Vujicic, c'est vraiment un homme formidable, né sans jambes et sans bras, qui voulait se suicider à 8 ans. Et il a finalement accepté, il a été touché par l'amour de ses parents, puis il voulait pas les culpabiliser. Et finalement, c'est un homme qui est utilisé partout dans le monde, à part en Europe, c'est le seul continent, mais ça viendra. Il est peut-être déjà venu, parce que depuis quelques années, on a ces témoignages. On avait déjà pensé d'ailleurs l'inviter ici en Belgique, ce serait une bonne chose d'ailleurs. C'est extraordinaire. Nick Vujicic, vraiment un homme qui a dû... s'emparer des promesses de Dieu pour sa vie, parce que être handicapé de cette manière et voir la différence. Et qu'est-ce qu'il a dit que j'apprécie beaucoup? À la place, il avait deux choix, soit être mécontent pour tout ce qu'il n'a pas par rapport aux autres, ou soit glorifier Dieu pour tout ce qu'il se peut faire. Et il fait plein de choses, il nage, il plonge, il fait du golf, vous n'avez pas vu tout, hein. Moi j'ai vu encore d'autres, si vous voulez aller voir sur internet ou sur YouTube, vous pouvez voir d'autres types de vidéos sur lui. Il est marié, il vit en Californie, il a un fils, une très belle femme, et rien n'est impossible à celui qui croit, rien n'est impossible. Et sa mère lui avait dit, voilà, si Dieu te rend pas des jambes et des bras, parce qu'il avait prié, Seigneur, demain, je te prie pour que demain je puisse me réveiller et que je puisse avoir des bras, même un bras. Mais non. Et sa mère lui a dit, si Dieu ne fait pas un miracle pour toi, alors c'est que tu seras, toi, un miracle. Et au travers de toi, beaucoup d'âmes viendront à Jésus. C'est ce qui s'est passé. Et c'est un mentor pour les jeunes. C'est un homme qui parle devant des lycées où les filles, les garçons ont une très mauvaise image d'eux-mêmes et font toutes sortes de bêtises à cause d'une destruction de leur image de soi. Et il les renforce vraiment au niveau de leur identité. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que je laisse le règne de Dieu venir dans ma vie, je laisse être le conducteur de ma vie, même s'il m'arrive des tas de choses, il peut nous arriver des tas de choses, hein, pour cette pauvre fille, cette sœur qui venait à l'église de Jean Blou, elle a été prise dans le métro et suite à l'explosion, elle a été tuée. Une sœur. Une sœur en Christ. Pas facile, hein. On peut avoir difficile par rapport à des événements qui surviennent. Les parents peuvent se demander aussi, et les gens qui connaissent la fille et qui connaissent toutes ces personnes qui sont décédées, quoi faire par rapport à ces circonstances douloureuses. Difficile, hein. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on prie encore que ton règne vienne? Et que ta volonté soit faite sur la terre, et il se passe des questions, on a des flashs de questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui s'est produit? L'argile fait des reproches quelquefois au potier, parce qu'il n'est pas d'accord avec le potier. Dieu, il est le potier. Il fait ce qu'il veut avec l'argile que nous sommes. Je peux pas décider à la place de Dieu. Je peux pas dire non! Ésaïe 45, verset 9, « Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre ne vaut rien. » Ésaïe 45, et Romains 9, verset 20, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que quand nous sommes malades, nous avons des difficultés dans notre vie, nous ne devons pas chercher à renverser les choses. Parce que Dieu est capable de transformer le mal en bien. Il est capable de toute façon de transformer, il est capable de guérir, il est capable de ressusciter les morts. Donc il est capable de transformer nos situations. Comme Daniel et ses amis, quand ils ont été mis dans la fournaise ardente, parce qu'ils n'avaient pas fléchit les genoux devant la statue, le roi était tellement fâché que les amis dans la fournaise, on a chauffé la fournaise 7 fois plus, et mais avant, il disait quoi au roi? Le roi les avait fait venir, leur avait dit, écoutez, vous allez vous incliner devant la statue. Mais ils ont dit, non, nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Il y a deux possibilités, soit Dieu nous en délivre, soit Dieu nous en délivre pas et nous mourrons des flammes. Et ils avaient les deux possibilités. Et c'est comme ça dans toutes les épreuves les plus grandes, il y a toujours deux possibilités. Soit on traverse l'épreuve et on passe dedans, soit on la surmonte. Et quelquefois, on passe au travers de l'épreuve. Il y a des prophètes qui ont été sciés en deux dans un arbre. Donc, il y en a qui ont été brûlés sur des bûchers, enterrés vifs. Et ils sont passés par l'épreuve. Et quelquefois, dans l'épreuve, Dieu le fait surmonter, il y a une guérison, il y a une délivrance, il y a quelque chose d'extraordinaire. Peu importe, Dieu est notre délivrant, hein, que ce soit dans cette vie ou après. Hein, nous savons que Dieu est puissant, mais il ne fera pas exactement ce que nous pensons, parce que des fois nous imaginons comment est la sortie, à quel moment on va sortir du tunnel, et de quelle manière nous allons sortir. Mais c'est pas nous qui déterminons ces choses-là. Nous pouvons prier, c'est vrai, et quelquefois nous avons une réponse différente. Pas toujours. Dieu peut le faire. Dieu répond à la foi. Dieu est le consommateur de la foi. Dieu peut faire des exploits extraordinaires, même plus grands que ce que nous avons demandé. Et quelquefois, avec Nick, le plus grand exploit, c'est qu'il soit resté comme ça. Mais qu'il y ait une transformation de cœur. Moi, j'ai vu un homme sans jambes et sans pieds, sans jambes et sans bras. Et cet homme était dans l'inacceptation, il était dans une colère épouvantable. Et j'avais peur de le regarder, je voyais bien cette honte, je voyais bien cette colère à l'intérieur de lui, je voyais bien cette inacceptation. C'est pas la même. Quand on voit Nick, c'est un homme charmant, rempli d'amour, complètement délivré de toutes les tensions qu'il peut y avoir par... des pensées négatives, etc. On voit qu'il est, il a accepté sa situation. Et même, au travers de sa situation, il fait des choses incroyables. Je trouve que c'est formidable quand on voit l'énergie qu'il développe. L'acceptation du règne de Dieu, va faire un changement dans nos pensées. Il doit y avoir des changements dans nos pensées. Dieu veut opérer des changements dans notre mentalité. C'est là où la mentalité de Nick, vous avez vu, c'est un homme qui est renouvelé dans son intelligence, qui a les pensées de Dieu, qui a les promesses de Dieu, qui vit les promesses de Dieu. C'est pas quelqu'un qui dit « Zut, je vais faire semblant d'être joyeux, mais en fait, je râle et je suis vraiment confus, je suis... non, il a lâché prise par rapport à ses conceptions de comment les choses devraient fonctionner. Il a lâché prise et il a accepté, il s'est abandonné dans la main de Dieu. On voit que c'est un homme abandonné dans la main de Dieu, mais qui prend ses responsabilités au sérieux. Et bien, il est abandonné dans la main de Dieu. C'est extraordinaire. Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de mes pensées. » Les pensées de Dieu sont pas mes pensées. Il faut que je les épouse, il faut que j'accède aux pensées de Dieu. Et des fois, il y a une lutte, des fois, il y a un combat. Et on voit Jésus dans le jardin de Gethsémani, il y a un combat entre la pensée de Jésus et la pensée de son Père. Et des fois, mais ce genre de combat peut durer toute une vie. Et qu'on n'accepte pas Jésus, il nous montre l'acceptation. Donc, vraiment, l'essentiel, c'est de faire confiance à Dieu ou de renouer avec la confiance. On peut avoir perdu pendant un temps la confiance. Parce que les questions, parce que la colère, parce que la tristesse, parce que il y a pas de réponse. Quelquefois, il y a pas de réponse. Pendant un temps, il y a pas de réponse. Et dans ce temps où il y a pas de réponse, oui, qu'est-ce que je fais avec des questions sans solution, sans réponse? Donc, c'est la confiance. Et la confiance permet un changement de mentalité. Un changement de perspective, un changement dans notre façon de prier. Ah oui, il y a même des changements dans la façon de prier, c'est évident. Quand on n'a pas ce renouvellement dans la mentalité, on prie d'une certaine manière. Quand il y a ce renouvellement, on prie plus de la même manière. Il y a quelque chose qui est changé. Il y a un déclic qui s'est produit, on prie plus de la même manière. Il y a un changement de voir notre vie et qui nous permet de renouer avec la passion. Soit j'ai les pieds de plomb, soit je n'accepte pas. Il y a des tas de gens dans la vie, dans notre société, qui n'acceptent pas la situation, ou qui l'acceptent parce qu'il faut bien, mais rien de plus. Ils vont dire c'est une espèce de croix à porter, mais est-ce qu'ils ont compris le sens de leur épreuve? Pas tous, pas toujours. Et Psaume 139, verset 23 dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, il connaît mes préoccupations, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Une mauvaise voie, c'est des fois la voie intérieure de mes pensées et de ma manière de considérer la vie, ou ma vie, considérer ma vie, ou considérer Dieu, considérer ce qui m'arrive. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi et connais mon cœur. Quel est ce Dieu qui peut connaître mon cœur? C'est pas un Dieu que je mets dans une petite boîte bien claire. Voilà, ma conception de Dieu et ce qu'il fait pour moi. Mais voilà, je suis ouvert à plus à ce que Dieu est en réalité et il dépasse toutes mes conceptions. Et c'est souvent dans les difficultés que là, je suis dépassé moi-même et je n'ai plus pied quelquefois. Je sens plus la terre sous mes pas. Je suis peut-être sur un fil entre deux bords d'un précipice, comme les gens qui voyagent sur un fil. Là, c'est pas évident. Et Dieu nous tient sur ce fil. Tiens bon. T'es sur la corde, d'accord, mais tiens bon, t'arriveras de l'autre côté. Mais il faut faire confiance, parce que si ce n'était que nous, on fout le camp de ce scénario-là. On n'a pas envie d'y être. Mais des fois, on est sur ce fil. Et il n'y a pas question de s'en aller. Ce serait dommage peut-être de revenir en arrière. On n'arriverait pas de l'autre côté. C'est très important. Alors, il y a des richesses cachées. Voilà le problème. C'est un besoin de révélation. C'est un besoin de connaître. Mais qu'est-ce qui m'empêche de comprendre? Qu'est-ce qui m'empêche de donner du sens à ce qui m'arrive, à ce qui arrive à d'autres, à ce qui arrive? Est-ce que je peux avoir le sens de cela? Et nous avons besoin de révélation du Seigneur. Et je voudrais bien que Benjamin me donne la deuxième vidéo. Et là, on va voir les richesses cachées. Il y a des richesses que Dieu veut nous donner. Le royaume, il est caché, je le disais tantôt. Il y a des vérités du royaume qui sont cachées. Il y a certaines choses qui sont écrites, qui sont claires. La parole de Dieu nous révèle le royaume de Dieu, en grande partie, mais il y a à nous un effort de recherche. Il y a un effort de recherche. Et on va laisser la deuxième vidéo de...
C'est la fortune qui existe, regarde!
Allez, vous autres, vous êtes des bâtides comme moi! Dites-le qu'il n'y a jamais eu de source! Mais faites bien attention. Si vous saviez qu'il y en avait une, et que vous ne l'avez pas dit au bossu, alors c'est vous qui êtes responsable de sa mort.
Non, ne tourne pas! Non! Je t'aime assez! C'est parce que je t'aime, madame! Je t'aime d'amour et je te donnerai tout parce que je t'aime.
Le destin, ça n'existe pas. Ce sont ceux qui sont bons à rien qui parlent du destin.
Ma porte, ma porte, elle ne s'est pas réglée.
Qu'est-ce que tu racontes?
Elle ne coule plus.
Plus du tout.
Mais le goutte, c'est le lance papé. On est foutu.
Calme-toi.
Un drapeau qui bouge le bio ou une couleur.
C'est pas possible, c'est pas arrêté depuis 7 comme ça.
Tu sais à qui il ressemble?
À personne.
Mais si, c'est tout le portrait de sa grand-mère, Florette Cameron. La jolie.
Et tu le sais, toi. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Quand je mange, ça pas de goût. Le sommeil, ça me l'a tué. Alors si tu me veux pas, ou je meurs ou je deviens fou.
Tais-toi, monsieur, tais-toi, viens. Je vais qu'elle lui dire la source. Et maintenant, ils jouent encore de l'harmonica. Personne ne le sait, mais quand même, j'ai honte devant tout le monde. même des arbres.
Manon des sources, le film, je vous invite à le voir, c'est un beau film, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que dans ce film, on voit une source qui a été bouchée. Bon, là, on n'a pas vu l'endroit exactement où il a été bouché, parce que là où les habitants se trouvaient dans le village, oui, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire-là, mais la source, en fait, dans le grand terrain de la propriété, on n'a pas vu, avait été bouché pour faire croire que cet héritage ne valait rien. Et donc, c'était le moyen de l'avoir acheté. Il ne valait absolument rien. Il n'y avait pas de source. En fait, il y avait une source, mais il avait été caché. Et le diable, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que le diable cache les sources. Veut cacher les sources qui procurent la vie. Et... Donc, le royaume est à découvrir. Il y a des vérités du royaume. Il y a des choses qu'on va découvrir au travers des circonstances de notre vie. Où nous allons chercher Dieu. Dieu va nous révéler. Dieu veut nous révéler. Dieu veut nous révéler sa parole. Et nous allons voir au chapitre 45 d'Ésaïe, à partir du verset 1er. Donc le diable cherche à nous cacher la vérité qui libère et débouche la source de bénédiction. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, que je tiens par sa main droite, pour abaisser devant lui les nations, pour déboucler la ceinture des rois, pour déboucler devant lui les battants, pour que les portails, les portes ne restent pas fermées. Moi-même, devant toi, je marcherai, les terrains bosselés, je les aplanirai, les battants de bronze, je les briserai, les verrous de fer, je les fracasserai. Je te donnerai les trésors déposés dans les ténèbres, les richesses dissimulées dans des cachettes. Ainsi tu sauras que c'est moi, le Seigneur, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je te donnerai les trésors déposés dans des ténèbres, les richesses dissimulées dans des cachettes. Il y a des richesses que Dieu veut nous révéler. Elles sont cachées. Tout n'est pas connu. C'est comme quelqu'un me disait, j'ai lu la Bible, j'ai plus besoin de la lire, j'ai déjà lu il y a 20 ans, problème, j'ai déjà tout lu, je sais tout. Et non, tous les jours, nous devons rechercher les richesses pour notre vie, des richesses nouvelles et anciennes. Parce que les richesses nouvelles, elles sont anciennes. Mais quelquefois, elles sont cachées à nos yeux spirituels. Et Dieu veut nous révéler ses richesses, afin que nous ayons de la compréhension pour le plan de Dieu, pour le plan de notre vie, pour le plan de Dieu, pour l'histoire, pour l'humanité aussi. Et donc, il y a plusieurs principes, les principes de passer de l'incrédulité à la foi, parce que quelquefois, vous savez, suite à certaines circonstances de notre vie, notre foi peut être ramassée en tête de cuillère, on va dire comme ça, on peut être brisé. On peut être cassé par les épreuves. Et Dieu remet debout. Hein. La résurrection, c'est quoi? La vallée des ossements séchés d'Ézéchiel, c'est la remise debout. Jésus est ressuscité. Ouais, il a ressuscité plusieurs personnes. Les ossements séchés dans le livre d'Ézéchiel, c'est aussi une remise debout. Et Dieu peut nous remettre debout dans notre foi. Si notre foi est vacillante, si nous avons perdu confiance, si les questionnements qui sont dans nos cœurs ou qui seront un jour dans nos cœurs suite à des circonstances tragiques, suite à des circonstances extrêmement difficiles, eh bien Dieu veut relever notre foi. Les épreuves doivent nous conduire à en rechercher le sens. On doit trouver le sens de nos épreuves. Nick Vujicic, on l'a vu. Il a trouvé le sens de l'épreuve qu'il vit. Et il sait pourquoi il est sur la terre. Il sait pourquoi il va pas demander jusqu'à la fin de sa vie des bras et des jambes. Ça le rendrait complètement malheureux. Et ce serait même stupide de le faire parce que Dieu lui a montré clairement qu'il ne lui donnera pas des jambes et des bras. Mais l'essentiel, c'est qu'il peut vivre comme cela est heureux en étant comme cela. Et ça, c'est extraordinaire. Le diable veut nous cacher les vérités essentielles que nous devons connaître. Il fait apparaître le mensonge d'une réalité qui serait inchangeable. Parce qu'il y a des choses qui peuvent changer. Et la première chose que Dieu veut changer, c'est pas l'aspect extérieur. À quoi, Nick disait tantôt, à quoi me servirait d'avoir un corps en bon état si l'intérieur est brisé? Et bien sûr, Dieu a fait l'œuvre la plus essentielle, c'est de restaurer l'être intérieur de Nick, au point que sa mentalité a été transformée. Il y a eu un changement de vision des choses, qui a produit un bonheur, la joie de vivre, malgré les difficultés que Dieu permet. Nous avons besoin d'une révélation pour sortir de l'impasse. Nous avons vraiment besoin d'une révélation. Montre-nous ce qui est caché à mes yeux, que je comprends pas, que je vois pas, que je discerne pas. Je veux le savoir, je veux le comprendre. Seigneur, révèle-moi. Est-ce que Dieu n'est pas le Dieu des révélations? Colossiens 2, verset 3, mystère dans lequel sont cachés les trésors. L'évangile, c'est un mystère dans lequel sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Et c'est ce que Paul proclamait, cet évangile, que Dieu lui avait manifesté, rendu clairement intelligible. Dans Jérémie 33, verset 3, il a dit ceci, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. » Donc c'est pas des choses que, c'était caché dans l'ancien temps. Peut-être, mais il y a aussi des choses qui me sont cachées et que Dieu veut révéler à ceux qui sont des amis proches, des amis intimes. Est-ce que nous sommes intimes avec Jésus? Est-ce que nous prenons du temps avec lui tous les jours? Est-ce que nous recherchons Dieu dans la prière et dans la parole de Dieu? C'est là où nous allons creuser notre intimité et profond dans notre relation avec Dieu et recevoir des choses cachées que je ne connaissais pas, que nous ne connaissions pas, des choses que Dieu veut nous révéler. Et là, il faut creuser, il y a un trésor dans la parole de Dieu, il y a un trésor dans la révélation, mais si nous ne les recevons pas parce que nous ne cherchons pas, si tu cherches Dieu, il se laissera trouver par toi. Si tu frappes, il l'ouvrira. Si tu demandes, tu recevras. Et le royaume, c'est aussi, le royaume de Dieu, c'est un règne qui demande une ouverture, qui demande une recherche aussi, pour faire la volonté de Dieu et accomplir sa volonté. Pour que Jésus règne en moi, il faut que je laisse régner en moi, mais c'est facile de dire ça, oui, Jésus règne en moi, c'est magnifique, c'est beau, mais est-ce que je le laisse vraiment régner? Est-ce que je recherche sa pensée? Est-ce que je pense avec mes propres pensées ou avec ses pensées à lui? Et quand il y a un discours différent entre mes pensées et les pensées de Dieu, est-ce que j'accepte que Dieu vienne à moi? Vous savez, et c'est un gentleman, hein, celui qui est borné, qui reste avec ses pensées, il va le laisser comme ça. S'il n'accepte pas, il ne s'humilie pas. Oui, évidemment, Dieu en va justement nous envoyer des épreuves pour transformer ce qui, au fond de nous, doit changer. Jacob était un trompeur et à Bethel, il reçoit une révélation. Mais il négocie, il fait du négoce avec Dieu. Ah, c'est si tu me bénis, mais alors je te donnerai la dîme de tout. C'est du négoce, il fait du négoce avec Dieu. C'est du commerce. Jacob le commerçant. Mais Jacob doit changer radicalement et à Pénuel quand il revient à Canaan, là Dieu l'attend. Dieu l'attend pour une autre révélation, une plus grande révélation, un plus haut niveau de révélation. Et il se bat avec l'ange de l'Éternel à Pénuel. Et Dieu veut changer le fond du cœur de Jacob. Ça n'intéresse pas qu'extérieurement, il soit un bon croyant. Il peut être un bon croyant. Tu vois, je fais bien les choses. Moi, je donne ma dîme, je fais ci, je fais là, je fais plein de choses. Mais est-ce que ton cœur a cette révélation que Dieu veut te donner? Et là, il va boiter. Et quelque part, il va devoir s'appuyer sur Dieu. Voilà pourquoi il boite. C'est parce qu'il va s'appuyer sur Dieu, s'appuyer vraiment profondément sur Dieu, Dieu va le changer en profondeur. Il ne s'appellera plus Jacob, mais Israël. Hein? Dieu est ma force. Est-ce que Dieu est devenu votre force? Ou est-ce que c'est votre façon de considérer les choses qui est votre force? Et nous allons sortir de l'impasse par la révélation de Dieu. Nombre chapitre 12, verset 8, et en parlant de Moïse, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, je me révèle. Dieu se révèle à Moïse. Dieu se révélait. Daniel 2, 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Le secret lui fut révélé. On a besoin de révélation, parce qu'on ne sait pas tout. On ne peut pas répondre à tout. Et par rapport aux épreuves de la vie, il nous faut des révélations. C'est pas tout de savoir, oui, je connais la parole, j'ai entendu, j'ai écouté 1000 études bibliques, maintenant je connais tout. Ah non, parce que au travers des épreuves, eh bien, je vais connaître autrement, je dois connaître autrement. Je suis à l'école de la vie, Dieu me met à son école au travers des situations difficiles que je dois rencontrer. Amos 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes, c'est des gens qui reçoivent la révélation. Et Dieu voulait que nous soyons tous prophètes. Il y en a qui se plaignaient, il y a 70 personnes qui sont en train de prophétiser au temps de Moïse. Mais Moïse disait, laissez-les prophétiser. Laissez-les, et qu'il en ait encore plus. Et par rapport à la prophétie dans le Nouveau Testament, eh bien que Paul dit que c'est une très bonne chose qu'il y ait de la prophétie, des révélations, soit la prophétie ou d'autres dons spirituels, c'est très important. Dieu veut se révéler à nous. En Corinthiens 14, verset 26, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Il y a des révélations communes dans l'Église. Il y en a qui peuvent avoir une révélation pour quelqu'un d'autre. Et Dieu agit avec puissance pour équilibrer le tout, pour que chacun puisse avoir une révélation. On va pas marcher seulement avec par révélation, on marche par la foi, mais aussi quand Dieu daigne donner une révélation, écoutons-le. En d'autres temps, nous marchons par la foi. Le juste vivra par la foi. Éphésiens, chapitre 1er, verset 17, « Afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Afin que vous puissiez le connaître et qu'il donne un esprit de révélation. Dieu se révèle à nous pour que nous puissions comprendre la parole. Éphésiens 3:3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Par révélation, l'apôtre Paul avait des révélations. Apocalypse chapitre 1er verset 1er, le mot apocalypse, ça veut dire quoi? Ça veut dire révélation. C'est la révélation pour la fin des temps. Galates, chapitre 1er, verset 12, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est très important. Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Et la révélation des paroles de Dieu, c'est tous les jours. Dieu veut éclaircir notre intelligence, renouveler notre intelligence pour que nous puissions comprendre sa parole. Et la dernière chose, le royaume est un trésor qui est sans cesse à découvrir. Donc le royaume, c'est un trésor extraordinaire qui est sans cesse à découvrir. Matthieu, chapitre 13, verset 44, là, il y a plusieurs paraboles qui sont données sur le royaume, et on va donner quelques versets ici. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Et verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors évidemment, ça nous parle de Jésus, Jésus qui a, je vais dire, qui s'est séparé de la gloire qu'il avait dans le ciel pour aller chercher la perle précieuse qu'est l'Église. Sa perle précieuse, c'est nous. C'est un trésor. Il est venu nous chercher. Il est venu nous préparer pour que nous soyons avec lui. C'est ça le royaume. Un jour, nous allons être avec lui. Il nous prépare. Il y a toutes les lois du royaume, mais je n'en parle pas ici dans cela. Donc, vraiment, il nous recherche. Faisons partie de ce royaume. La perle, c'est Israël. Et aussi, le peuple de Dieu qui est l'Église aussi. Alors, vous savez exactement la perle, la formation de la perle. Comment est-ce qu'une perle, dans toutes les huîtres, il n'y a pas de belles perles, évidemment. Hein. Dans certaines huîtres, il y a effectivement une perle. Pour aller chercher ça, c'est pas évident. Hein. Il faut des gens qui plongent, des plongeurs. Et des fois, au risque de leur vie, ça peut arriver. C'est pas évident. Il faut chercher beaucoup. Et ils passent des journées entières à rechercher les perles. Quelquefois, ils en trouvent. Ils en trouvent de très belles. Waouh, mais c'est une recherche. C'est pas facile. C'est pas évident. C'est pour ça qu'elles coûtent très cher. Les perles naturelles trouvées au fond de la mer, maintenant, elles sont cultivées. Mais ça coûte des sommes astronomiques, évidemment. Les perles qui sont trouvées au fond d'une mer, c'est pas évident d'acheter cela. Et la perle, sa formation se produit à cause d'une irritation dans la chair de l'huître. Et donc, la perle se protège et il y a des couches de nacre qui se mettent tout autour de la blessure, de la petite crasse qui est venue. Et finalement, c'est par protection et c'est dû à une blessure, c'est dû à une irritation dans la chair de l'huître. Extraordinaire. Et finalement, on peut penser aussi à la perle que nous sommes, qui est aussi toutes nos vies ont été blessées, toutes nos vies ont été meurtries. Jésus a été meurtri. Il a dit que notre chemin n'est pas différent du sien. Le serviteur ne sera pas plus grand que son maître. C'est lui a été offensé. C'est lui a connu des sévices, des problèmes, des difficultés. Et nous aussi, nous connaîtrons des épreuves. Peut-être que pour l'instant tout va bien, mais on réalise bien que la vie ne va pas être toute facile. Si nous obéissons à Dieu, si nous faisons sa volonté, je peux vous assurer qu'il faut s'attendre à avoir des difficultés. Mais Dieu sera avec nous. Hein. Il y a cette protection de la perle. Cette protection qui la rend si belle, extraordinaire. Nous sommes des perles aux yeux de Dieu, chacun pour sa part. Nous sommes des perles et qui ont souffert ou qui peut-être vont être s'embellir encore au travers des circonstances et des épreuves. C'est étonnant, hein? On aimerait avoir une vie toute simple, toute facile, un long fleuve tranquille, sans problème. C'est chouette, hein? On annonce l'Évangile et tout. Et les âmes viennent au Seigneur et pas de persécution, il n'y a pas de problème, pas de difficulté. C'est fantastique comme c'est chouette. Mais oui, c'est chouette parce que le Seigneur est avec nous, parce qu'il nous protège, parce qu'il nous garantit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est fantastique d'être avec le Seigneur. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficulté. La perle pourrait dire « Pourquoi tu m'as fait comme cela ?» Mais en fait, Dieu nous considère comme une merveilleuse créature. Je te loue, disait David, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui, et nous devons passer par la fournaise des épreuves. Oui, et certainement qui fortifie notre foi et qui est une foi supérieure à une vie sans passé douloureux, sans difficulté, parce que la foi et se confirme dans l'adversité. Soyons heureux de passer au travers de la fournaise, parce qu'au travers de cela, Dieu éprouve notre foi, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le royaume, c'est un trésor caché, et celui qui veut ce trésor, il va tout vendre pour l'acheter. Il va tout vendre pour l'acheter. Et ça nous parle d'une primauté, d'une priorité, d'une prééminence du royaume sur tout le reste. Être prêt à tout abandonner pour le royaume, c'est extraordinaire. Cherchez premièrement, dit Jésus dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tout vous sera donné par-dessus si vous cherchez le royaume de Dieu. Chercher, ça veut dire qu'on n'a pas... si on avait déjà trouvé, on aurait plus besoin de chercher, non? Des fois, on peut se comporter en des personnes qui ont déjà trouvé le royaume de Dieu. Donc, il n'y a plus besoin de chercher. Mais Jésus dit, cherchez. Cherchez le royaume de Dieu, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est vrai que nous avons trouvé Jésus. Mais devons persévérer à chercher le royaume de Dieu. Et sa justice, ça nous implique heure après heure, jour après jour, à chercher. Chercher ma face continuellement, sans cesse. Dans l'Ancien Testament, on voit cela. Chercher ma face continuellement, sans arrêt. Sans arrêt. C'est pour ça que Paul dira, priez sans cesse. Cherchez, recherchez la face du Seigneur. Cherchez premièrement. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Est-ce que vous voulez vous emparer du royaume de Dieu ce matin? Réalisez, donnez un sens aux épreuves qui vous arrivent, qui arrivent aux autres, aux questionnements que vous avez. Il n'y a pas de réponse pour tout, mais est-ce que vous voulez chercher devant Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas celui qui veut vous révéler ce qui se passe? Nous allons prier. Seigneur, merci Jésus, parce que nous sommes des perles de grand prix pour toi. Nous sommes dans ton royaume, c'est toi qui règnes, c'est toi le roi, tu es souverain, et dans ta main nous sommes. Nous sommes dans ta main souveraine. Tu tiens notre vie dans tes mains, et rien de ce qui peut nous arriver n'est étranger à tes yeux. Tu connais tout, tu sais tout, tu vois tout. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donne-nous Seigneur une nouvelle révélation, Seigneur. Nous avons besoin de nouvelles révélations par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Que ce soit les uns, que ce soit les autres, que ce soit par rapport à des personnes extérieures de notre assemblée ici, que ce soit par rapport à des situations qui nous ont retournées, qui nous ont poser question ou qui ne pose question. Seigneur, tu es celui qui se révèle et qui donne un sens. Tu es aussi celui qui débouche la source. L'ennemi a voulu nous cacher des vérités importantes. Mais tu dis que si nous cherchons, nous allons trouver. Alors, Seigneur, nous voulons chercher et nous allons trouver là où l'ennemi a mis une grosse pierre pour ne pas qu'on voie la source qui se trouve là. Pratiquement sous nos pieds, vraiment très près de nous, il y a une source que nous allons déboucher par la grâce de Dieu. Et ce flot va couler, Seigneur, les fleuves d'eau vive couleront. Oh Seigneur, tu veux faire ton œuvre, tu veux faire des choses extraordinaires. Seigneur, merci Seigneur, parce que c'est toi qui ouvres les portes blindées. C'est toi, Seigneur, qui ouvre les sources qu'on croit être taries. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à prendre ta victoire sur les mensonges de l'adversaire et réinstaller la vérité, Seigneur. Dans nos cœurs, dans nos vies, que ce soit ta vérité, que nous soyons conduits par ta vérité, que nous soyons vraiment sous ton règne. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Que plusieurs puissent prier par rapport à cette pensée, si vous le voulez.